Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent, « Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle ? Est-ce lui qui a péché ? Ou bien ses parents ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents. » Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il nous fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive fit de la boue, qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Le nom Siloé signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui, il affirmait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. » Et lui dire, ben, « Et lui, où est-il ? » Et il répondit, « Je ne sais pas. » On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux et je me suis lavé. Et maintenant, je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « Oh, c'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme qui maintenant voyait avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et ils leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, n'est-ce pas ? Et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'il voit maintenant ?» Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il peut y voir à présent ? Nous ne savons pas. » Et qui lui a ouvert les yeux ? Nous ne savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur ? Je n'en sais rien, mais il y a quelque chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois ? Serait-ce que vous aussi, vous voudriez devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier, « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire qu'un homme ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliqua, tu es tout entier plongé dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et il lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, mais qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et dirent, serions-nous des aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Ça va, ça n'était pas trop long. C'est un évangile un peu long, n'est-ce pas? Un chapitre entier de Saint Jean. Et très curieusement, d'ailleurs, quand vous le relirez, vous regarderez le petit passage où Jésus accomplit ce miracle tient en deux lignes simplement. Donc on ne s'étale pas sur la question de la façon dont Jésus a guéri, mais toute la question, c'est vous l'avez bien senti en écoutant, c'est la reconnaissance de l'identité de celui qui a guéri. Qui est Jésus? Et le cheminement de cet homme vers la foi. D'ailleurs, il y a dans ce chapitre un cheminement croisé. Il y a d'une part cet aveugle guéri qui peu à peu émerge et parvient à la foi en Jésus. Et puis de l'autre côté, il y a le cheminement des pharisiens qui sont plutôt grognons et qui finissent par se fermer totalement à Jésus et par fermer leur cœur à une possibilité de croire que Jésus est Dieu. Cheminement croisé. Vous avez ça très fréquemment dans la Bible, d'ailleurs, si vous vous souvenez, vous connaissez tout de même un peu l'Ancien Testament, lorsque Moïse a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, il est allé trouver Pharaon pour lui dire « Laisse sortir ce peuple d'Égypte ». Pour qu'il aille au Sinaï et rendre un culte à Dieu. Et Pharaon, peu à peu, s'est endurci. Il a dit, non, non, je ne le laisserai pas partir. Non, je refuse. Et il y a un bras de fer qui s'est engagé entre Pharaon et Moïse. Mais derrière Moïse, Dieu lui-même. Et au début, on nous dit que Pharaon endurcit son cœur. Et puis plus loin dans le texte, on nous dit que Dieu endurcit le cœur de Pharaon. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on se refuse à Dieu. Dans un premier temps, on se refuse soi-même à Dieu. Puis dans un deuxième temps, quand Dieu continue à frapper à la porte, on se durcit vraiment complètement. Et c'est comme si le fait que Dieu frappe à la porte vienne durcir un peu plus le cœur. Vous savez, c'est comme les cols un peu rapides, quelquefois qu'on mélange. Là, il faut savoir faire rapidement, parce qu'une fois que c'est pris, après, crac, c'est trop tard. Ça s'est durci. Et voilà. Alors on voit ces pharisiens qui finalement sont méfiants. Ils essayent d'analyser avec leur tête qu'est-ce qui s'est passé, comment il a fait, pourquoi il a fait ça, qui c'est qui a fait ça. Et puis ils finissent par jeter l'aveugle et puis par se refuser à Jésus. Mais l'intéressant, c'est de voir le cheminement de cet homme qui d'un côté va dire il a disparu, je ne sais pas où il est, je ne sais pas qui c'est, je sais qu'il s'appelle Jésus, mais voilà. Un peu plus loin, il va dire, bah, sûrement c'est un prophète. Un peu plus loin, il va dire, bah, de toute façon, il vient de Dieu. Quelqu'un qui ouvre les yeux à un aveugle de naissance ne peut venir que de Dieu. Et puis, quand Jésus va lui dire, crois-tu au Fils de l'homme, il va dire, mais qui est-il? Et Jésus va lui dire, c'est moi. Et cet homme va dire, je crois. Et va se prosterner devant Jésus. Et donc, on a à travers ce chapitre entier un cheminement qui est un cheminement de préparation au baptême, au fond. Le passage des ténèbres à la lumière. Alors, sur un premier plan, cet homme était vraiment plongé physiquement dans les ténèbres parce qu'il était aveugle de naissance. Et puis Jésus lui ouvre les yeux physiquement pour qu'il y voit clair. Il est guéri de sa cécité. Et aujourd'hui encore, Dieu guérit des aveugles concrètement, physiquement, concrètement. Des aveugles, des paralysés, des sourds. Je me souviens une fois au cours d'un temps de prière pour la guérison avec le Père Tardif dans un rassemblement charismatique au début du renouveau, le Père Tardif avait des paroles de connaissance et il priait pour les malades et puis le Seigneur lui donnait dans son cœur la grâce de pouvoir annoncer, sans savoir de qui il s'agissait, telle ou telle guérison que le Seigneur était en train d'accomplir dans l'assemblée, une grande assemblée de plusieurs centaines de personnes. Et à un moment, le Père Tardif annonce que le Seigneur est en train de guérir un paralysé, et donc qu'il se lève, et personne ne bouge, et voilà, enfin, bon. Et puis, un peu plus tard, le Père Tardif reçoit, après avoir fait encore d'autres annonces, que le Seigneur est en train de guérir un sourd. Et alors il annonce, le Seigneur guérit en ce moment quelqu'un qui est sourd, qu'il vienne pour témoigner. Et à ce moment-là, on voit cet homme qui était paralysé se lever et puis venir témoigner qu'il était guéri à la fois de sa paralysie et de sa surdité. Le Père Tardif de dire avec une pointe d'humour, Seigneur, la prochaine fois, fais donc l'inverse, commence par guérir sa surdité et après sa paralysie, n'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur continue à guérir aujourd'hui. Je pense que c'est important de se le dire. Je sais que ce n'est pas très habituel. C'est vrai qu'on est un peu réticents parce que nous sommes des Occidentaux bien formatés avec une prégnance de la raison telle que nous avons du mal à penser que Dieu puisse agir encore aujourd'hui de cette façon-là. Mais c'est vrai. Donc pour cet aveugle de naissance, Jésus le guérit. Mais surtout, ce que Jésus voulait, c'est que cet homme passe des ténèbres spirituelles à la lumière de la vie éternelle. À la lumière de la vie éternelle. Et comment se fait ce passage? Eh bien, par l'acte de foi. Par l'acte de foi. Seigneur, je crois. Lorsque nous disons « je crois », nous employons un outil que le Seigneur nous a donné, qui est l'outil de la foi. Quand nous disons « je comprends », nous utilisons l'outil de l'intelligence, qui est un outil noble. Quand nous disons « je sens », »,« je perçois », nous utilisons l'outil des sens. Quand nous disons « je crois », nous utilisons l'outil de la foi qui nous permet d'appréhender des réalités spirituelles. Par l'outil de la foi, nous appréhendons des réalités invisibles et nous passons à un autre plan. Et cet aveugle, en disant « je crois », vient à la lumière de la vie éternelle par l'outil de la foi. C'est très important d'utiliser cet outil. C'est très important. Nous ne l'utilisons pas assez, cet outil de la foi. Et il faut pouvoir vraiment souvent produire des actes de foi. Regardez cette femme qui venait toucher le vêtement de Jésus par derrière pour obtenir sa guérison. Même chose. Il y avait tellement de monde qu'elle est parvenue à toucher la frange du manteau de Jésus et elle a été guérie. Et Jésus a perçu que quelqu'un avait obtenu une guérison et a cherché à savoir qui c'était. Et voilà. La foi touche Dieu. La foi est un outil qui nous permet de toucher Dieu. Vous vous souvenez qu'en l'an 2000, le pape Jean-Paul II, qu'on va bientôt béatifier le 1er mai, je vous signale, hein. Vous avez sûrement entendu parler. 6 ans après sa mort, on va béatifier le pape Jean-Paul II, le 1er mai, et en l'an 2000, le pape Jean-Paul II avait canonisé une religieuse polonaise qui s'appelait Sœur Faustine Kowalska, et qui avait, au XXe siècle, reçu des révélations de Jésus lui-même, et Jésus lui demandait de promouvoir le culte de la miséricorde divine, de faire appel à la miséricorde de Dieu. Et il lui a enseigné une toute petite prière, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Vous avez sûrement vu ça déjà sur des petites images pieuses. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Voilà un cri de foi, par exemple. La foi touche Dieu. Lorsque nous disons « Jésus, j'ai confiance en toi ».« Jésus, je crois en toi ». À chaque fois que nous posons un acte de foi, nous touchons l'éternité, nous touchons la vie divine et nous remportons quelque chose, une grâce de Dieu, un contact avec Dieu. Et nous grandissons dans notre communion profonde avec Dieu. C'est pour ça que c'est si important de produire des actes de foi. Vous vous trouvez à la poste de la Milès en train d'attendre pour acheter un carnet de timbres à 60 centimes maintenant. Eh bien, il y a des gens devant vous. Prenez le temps de prier intérieurement. Ne passez pas. Vous savez, les miettes de prière dans la journée, c'est important, ça. On a des tas de moments où on peut prier intérieurement et poser des actes de foi. Seigneur, je crois que tu nous aimes. Seigneur, je crois que tu es présent en ce monde. Seigneur, je crois que tu conduis ce monde, etc. Et non pas nous laisser envahir par le doute, par tout ce qui va mal, etc. Ça, vous l'avez tous votre piqûre de rappel tous les soirs à 20h. Mais donc, essayons de produire des actes de foi qui nous permettent vraiment d'être en communion avec l'amour de Dieu. Profitons de ce temps du carême pour terminer, donc pour continuer notre cheminement, puisque, vous le savez, à la veillée pascale, à laquelle je vous invite à participer prioritairement, à la veillée pascale, nous renouvelons l'engagement de notre baptême et nous disons « Oui, je crois ». 3 fois, le célébrant posera la question « Croyez-vous en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit ? » ?»« Oui, je crois ». La veillée pascale est le lieu des baptêmes. Cette année, nous n'en aurons pas ici, à la chapelle Saint-Aubin, à la veillée pascale. Il y en aura le lendemain, le dimanche. Mais c'est le lieu aussi de la rénovation des promesses du baptême pour tous les baptisés de la paroisse. Et donc, préparons-nous à cela. Nous avons encore, dimanche prochain, un autre chapitre de l'Évangile selon saint Jean que nous entendrons, le rappel de Lazare à la vie. Et là, c'est une autre problématique, le passage de la mort physique au retour à la vie terrestre, pour nous faire comprendre que Dieu veut nous faire passer de la mort spirituelle à la vie éternelle et à la résurrection de la chair. Jésus a posé un certain nombre de signes et saint Jean en a pris 7 exclusivement dans son évangile, 7 signes forts et qui sont autant de lumière sur notre vie baptismale, notre cheminement baptismal. Et puis dans 15 jours, ce sera le dimanche de la Passion du Seigneur et des Rameaux, nous entendrons l'évangile de la Passion avant d'arriver au jour de Pâques où nous proclamerons la résurrection de Jésus et nous vivrons notre engagement baptismal. Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Tu le vois, c'est lui qui te parle. Et il dit, je crois, Seigneur, et se prosterna devant lui.